Vendredi 27 décembre, bienvenue dans une terre au carré maritime, un peu gelée sur les bords mais néanmoins très chaleureuse, à bord de plus ou moins gros paquebots. Vous sentez cette odeur de fioul dans l'air? Eh bien cela pourrait évoluer et vite. Le 1er janvier, les navires de commerce vont devoir changer de carburant. Est-ce que cela peut avoir un réel impact sur la pollution de l'air dans les ports? Pour répondre à toutes nos questions sur le commerce maritime, nous avons le plaisir de recevoir Paul Touret, directeur de l'Institut supérieur d'études maritimes de Saint-Nazaire. Vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et sur franceinter.fr avec le mot-clé « l'attaque ». Après 14 heures, vos solutions pour la planète, nous irons nous promener dans les bois, non pas pour cueillir des cerises, mais pour aller ausculter la faune et la flore des Alpes. Puis notre invitée découverte, avez-vous déjà entendu le son de la glace qui se brise? Marie-Lou Athanase revient de 6 semaines d'expédition en Arctique, elle nous racontera. Ils sont les capitaines de cette traversée jusqu'à 14h30. Céline Hilla à la réalisation, Paul Percheron et Ludovic Asselot à la technique. Bienvenue dans la Terre au carré.
Élodie Font. La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Paul Touret.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il évoque pour vous ce son de bateau?
Toute la mythologie de la mer et surtout de ceux qui n'ont pas la chance d'y aller, c'est-à-dire d'être au port et de l'entendre.
Vous en avez la chance puisque vous êtes de Saint-Nazaire, vous dirigez l'Institut supérieur d'études maritimes là-bas, à Saint-Nazaire. Alors à partir du 1er janvier, Paul Touret, les 60 000 navires de commerce, des pétroliers, des porte-conteneurs, des paquebots, vont devoir utiliser un carburant différent, moins polluant. Alors déjà, pour bien que l'on se rende compte, le carburant que l'on met dans les bateaux, ça n'a rien à voir avec celui que l'on met dans des voitures.
Non, c'est du fioul lourd. Le fioul lourd est, qui fait partie de la colonne de raffinage. Et traditionnellement, il restait un produit plutôt sale, entre guillemets, qui avait deux fonctions, les centrales thermiques et les navires. Les navires étaient plutôt pour des motorisations classiques, mais en tout cas, ils utilisent le fioul lourd. Donc on peut presque dire qu'on était bien content finalement que quelqu'un utilise cette partie-là du raffinage, notamment pour faire le transport maritime.
Le fioul lourd, en fait, on en a tous eu des images, parce que finalement, quand on a vu des marées noires, Erika, il y a 20 ans, presque jour pour jour, les taches sombres qui ressemblent un peu à du goudron, c'est ça le fioul lourd?
Ça, c'est du pétrole brut, mais c'est justement fioul lourd, l'image est peut-être pas très bonne. Ça reste un carburant, mais pratiquement un des carburants les plus sales, ou en tout cas les moins propres dans ce qu'on peut imaginer des carburants. Mais ce n'est pas non plus du fioul lourd, enfin, ce n'est pas du pétrole lourd, c'est pas aussi visqueux et sale
c'est,
que
c'est
ça.
C'est pas peut... à ce voilà, point-là, j'ai cru que c'était vraiment
mais
très proche.
Mais ça a quand même une consistante qui n'est pas celle du gasoil ou de l'essence qu'on met dans notre
voiture. C'est plus dur. Qu'est-ce que cette nouvelle réglementation va changer concrètement?
Alors en fait, cette réglementation, elle oblige à réduire quelque chose qui est important dans le fioul lourd, qui est le dioxyde de soufre. Et on a fait une réglementation mondiale qui divise par 7 le pourcentage de dioxyde de soufre, le SOX, dans le fioul lourd. Sachant qu'on avait déjà des mesures américaines et européennes depuis 2015, le milieu de la décennie, pour réduire encore de manière encore plus forte ce niveau d'émission. Mais là, c'est une très forte contrainte puisqu'on passe d'un taux relativement élevé à un taux plutôt moyen, mais divisé par 7, qui change fondamentalement une des bases du transport maritime, c'est l'utilisation même de carburant pour transporter les marchandises et les hommes quand c'est le cas.
Donc moins de soufre, en quoi c'est dangereux le soufre pour la santé? Pourquoi c'est ça?
Alors justement, la particularité c'est que ce n'est pas une pollution qui pose problème aux humains. C'est la pollution qui pose problème aux humains, c'est essentiellement les particules fines qu'on trouve dans le fioul lourd, mais qu'on trouve aussi dans le gasoil, dans le diesel que nous utilisons, nous comme les navires, parce qu'ils en utilisent aussi. C'est surtout la lutte contre les gaz à effet de serre. Et en fait, on a pointé du doigt, notamment le transport maritime, parce qu'il utilise ce fioul lourd, avec un taux de dioxyde de soufre relativement important, mais aussi du dioxyde d'azote qu'on appelle le NOx, qui participe aux gaz à effet de serre. Donc ce n'est pas une pollution... C'est une pollution humaine, mais ce n'est pas une pollution qui met en cause la santé. C'est une pollution qui fait pire que ça, puisqu'elle dérègle le climat et participe avec d'autres, hein, le CO2 d'une manière générale, au dérèglement climatique mondial.
Alors le paradoxe, c'est que j'ai découvert que le soufre jouait en même temps un rôle rafraîchissant sur le climat.
Alors ça, c'est peut-être les mystères de la grande chimie qui fait la planète, qui peut constituer. Le problème, c'est que toutes les excès humains, mais on parle du transport maritime, mais finalement tout ce qu'on fait sur cette notre planète, hein, l'avantage du transport maritime, c'est qu'on peut tout de suite, on voit qu'il y a un carburant qui pose problème. C'est beaucoup plus simple finalement de régler le problème du carburant maritime et de son taux élevé de soufre que de s'attaquer aujourd'hui au transport aérien ou au transport individuel ou à plein de choses dans l'activité humaine. Le transport maritime a cet avantage-là, c'est qu'on peut en tout cas le remettre en cause et l'obliger à changer.
Alors Paul Touret, c'est pas une décision qui arrive comme un cheveu sur la soupe, de faire évoluer le carburant. On se doute que ça a pris beaucoup de temps. 8 ans en l'occurrence depuis que l'Organisation Maritime Internationale, l'OMI, c'est cette organisation qui régule le transport dans les eaux internationales, ait décidé de faire cette évolution. Dans quelles conditions cette réglementation elle est née?
Alors on est dans quelque chose qui est très particulier, c'est que l'OMI qui représente quand même le monde maritime, mais derrière les États, a changé ces dernières décennies. Une organisation qui représentait un petit peu des États d'armateurs, on connaît la Grèce, on en connaît d'autres, voire les pavillons de complaisance ou ce qu'on appelle les pavillons de complaisance, ça pouvait être très, très borné finalement sur les mesures de sécurité. On le voit quand on a les mesures contre les luttes d'autres pollutions, les pollutions opérationnelles ou les pollutions accidentelles. Mais là, on a une sorte d'accélération du calendrier. Finalement, la prise de conscience des grands rassemblements de Copenhague d'il y a presque 15 ans ou 10 ans, tout ça a permis de plus avancer et finalement les États ont réussi à l'OMI à faire changer les choses. Et c'est peut-être une forme de modernité, peut-être l'activité au monde qui va s'adapter le plus rapidement à sa contrainte.
À vous penser ?
En tout cas, elle est obligée de le faire parce qu'on a décidé de pointer le doigt. Alors, elle a quand même un avantage, c'est qu'il suffit un peu de changer de carburant. Et puis, une question que vous me poserez peut-être tout à l'heure, ça va coûter combien ? Ça va vous coûter plus cher et finalement, tout ce que vous consommez va vous coûter plus cher. Alors, on pourrait faire le calcul peut-être dans 5 ans, à combien vous a coûté cette mesure. Mais normalement, comme consommateur de produits manufacturés internationaux, elle doit vous coûter plus cher, à vous comme à moi.
Oui, mais parce que l'OMI, donc le transport maritime, il est autorégulé. C'est comme le trafic aérien. Donc, même si les États ont voulu faire un peu pression, en l'occurrence, ils n'étaient pas obligés de respecter des accords internationaux sur le climat. Donc c'est quoi? C'est pour verdir leur image?
Alors, c'est une forme de modernité des États d'avoir voulu accélérer ce processus. Alors, il faut dire que les Européens et les Américains, par exemple l'État de Californie, est très très en avant sur ces questions-là. Il y avait, à l'époque d'Obama, il y avait quand même une pression environnementale qui marchait aux États-Unis, hein, qui est relativement ancienne. L'Europe a suivi, et finalement, l'OMI, qui représente aussi les intérêts des États, hein, derrière les armateurs, il y a des États, et a décidé de faire ce grand progrès. Quand on regarde la consommation pétrolière dans le monde, du monde maritime, quand on regarde les effets des gaz à effet de serre issus du monde maritime, c'est pas très important. Mais on a cette paradoxe de ce secteur qui est pourtant très décrié parce que par lui-même, parce que par ses pratiques, on le sait bien, ce qu'il a été toujours dans le transport maritime, mais aussi parce que souvent, il représente ce qu'on n'a pas envie de regarder, c'est-à-dire le tourisme de masse des paquebots ou le transport manufacturé de tout ce que nous consommons. Ce transport maritime mis un peu pointé du doigt, il est obligé de se verdir. Alors, se verdir, s'adapter, c'est très compliqué, mais l'avantage, c'est qu'enfin, il rentre dans le 21e siècle.
D'autant plus que c'est un transport qui est exponentiel. 4 fois plus de fret maritime depuis 1970.
Effectivement, on est à peu près à 12 milliards de tonnes pour le transport international. Et je vous enlève les Chinois qui, en plus, font leur transport domestique. Ça va 3-4%. On est à peu près maintenant sur le rythme de la démographie mondiale. Mais quelque part, il est encore une fois le transport maritime mondial et le miroir de notre monde moderne. Un miroir qui fait des autoroutes, qui fait des usines, qui fait des voitures, qui fait des téléphones, qui fait des climatiseurs, qui fait tout ce que fait le monde moderne.
Alors qu'on le voit pas, nous, les consommateurs.
Voilà,
c'est
vous
vrai
le voyez
qu'on les voit pas, tous ces bateaux qui acheminent les marchandises comme ça au fur et à mesure de la planète. C'est-à-dire que quand on va acheter un jean, par exemple, on se rend pas compte du nombre de kilomètres qu'il a fait pour arriver jusqu'à nous.
Le coton en a fait, la machine outil en a fait, le jean en a fait. C'est ça la particularité. Et je dis souvent, quand j'ai des gens à qui je présente ça, c'est que notre monde est vraiment dépendant du transport maritime à 100%. Ce que vous mangez, comment vous habillez, ce que vous mettez dans votre maison. Mais imaginez ce que vous faites, vous, un Bolivien, un Somalien le fait aujourd'hui. Même en Somalie, on consomme du transport maritime. On le consomme en Europe de l'Est, en Amérique centrale, en Mongolie. Tout le monde dépend de ça, en importateur, en exportateur. C'est vraiment un des éléments fondamentaux de ce monde moderne telle qu'on l'a construite.
Changer de carburant, Paul Touret, c'est pour les navires de commerce, c'est pas pour les navires, les gros paquebots dont on parlait là à l'instant, ceux des croisières qui sont très décriés.
Alors si, c'est une obligation véritablement qui se porte pour tous les navires de réduction du taux de soufre dans les carburants. D'où des solutions qu'on peut mettre les unes après les autres, qui ont chacune leurs avantages et leurs défauts. Mais le transport maritime de passagers est aussi concerné, qui concerne les ferries. Prenons un port comme Marseille ou Gênes, hein, qui a beaucoup de ferries, mais qui a aussi beaucoup de paquebots. Mais là, on renvoie sur une autre question qui est plutôt la pollution des particules fines, qui est plutôt celle qui est vécue et qui touche vraiment la santé publique. Ouais. Mais là, le débat
est un peu
différent.
C'est ça qui est peut-être compliqué à comprendre, finalement, voilà. Je pense, pour plein de gens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs pollutions au même endroit et en fait, elles ne nous concernent pas toutes de la même manière.
D'où l'effort de réduction très important qu'il peut y avoir sur certains navires, et notamment les navires à passagers. Quand vous avez des paquebots ou des cars ferries géants qui se trouvent dans des zones portuaires, comme c'est le cas encore une fois à Barcelone, Gênes, Naples, la pollution,
Marseille.
C'est plutôt Marseille, la pollution est relativement importante. Alors ce mélange effectivement des différents spectres et des fois une fantasmagorie de la pollution, mais ça fait aussi partie de ce monde moderne, de pouvoir lutter contre les pratiques, mais aussi de faire évoluer l'état d'esprit.
Si vous habitez d'ailleurs près d'un port et que vous voulez témoigner, si vous avez des questions pour Paul Touret qui dirige l'Institut supérieur d'études maritimes de Saint-Nazaire, le téléphone 01 45 24 7000 sur franceinter.fr avec le mot-clé l'attaque.
France Inter. La Terre au carré.
Vous restez avec nous, Paul Touret. Camille Passauvert, nouvelle diffusion de la chronique de Camille Cronier qui, le 18 octobre, emmenait Mathieu Vidard ici à Radio France à la rencontre de collègues un peu particulières. Discrètes, on ne les voit pas beaucoup, mais vous allez les reconnaître très vite en les écoutant. Vous êtes prêts? J'approche mon micro.
Ça ressemble à des abeilles, a priori.
Les abeilles de Radio France. Vous savez combien il y en a?
Non, pas
au
du
moins
tout.
90 000 en ce moment. Ça peut monter à presque 400 000 l'été, habitantes de 6 ruches installées au pied de la maison de la radio. Mais attention, vous vous en doutez, on n'entre pas comme ça dans le rucher, même si les variétés ici sont plutôt cool. Hein, elles sont choisies pour être adaptées à un environnement citadin. C'est tenue obligatoire.
Ça, c'est des tenues... Voilà, c'est des tenues qu'on prête.
Et à la manœuvre, c'est voilà. Le président de l'association apicole de Radio France, Jean-Christophe Rousseau, musicien du chœur, aujourd'hui retraité.
Donc, un camail pour le corps, disons.
Hop là!
Et sur la tête...
Voilà, le kit complet, grande combinaison blanche et le chapeau avec voile protecteur autour du visage, ça s'appelle un camail, pour se protéger non pas de l'agressivité, mais de la réaction potentielle des abeilles.
Il n'y a pas d'animaux agressifs. Qu'on le dise bien, qu'on le sache bien. Il y a des moments où, si on s'y prend mal avec les abeilles et qu'on déclenche chez elles une réaction qu'on qualifie d'agressif, qui n'est jamais qu'une réaction de défense à des stimuli qu'on a apportés avec nous et elles réagissent normalement.
Du coup, pour les prévenir qu'on est là, mais aussi les calmer, il y a...
Voilà, l'enfumoir, comme son nom l'indique, sert à faire de la fumée. Et la fumée va masquer les odeurs et les phéromones.
Phéromones qui leur permettent de communiquer pour signaler un danger, par exemple.
Et d'autre part... Les essaims apprennent petit à petit que cette fumée, c'est l'apiculteur et que lui, il n'est pas dangereux.
Les abeilles sont donc prévenues. On arrive, on ouvre l'une des 6 ruches.
Je remets un peu de fumée dans le haut au moment d'ouvrir le dessus. Et là, approcher.
Micro dans la ruche, Mathieu, où les demoiselles font des réserves à l'approche de l'hiver.
Tiens, celle-là. Elle est chargée de pollen et elle se repose un peu parce qu'elle a été chercher ça, par exemple, au bois de Boulogne, donc il y a 1500 mètres.
Ah, elles vont loin, elles parcourent un peu de chemin.
Le rayon d'action d'une abeille, c'est 3 km.
Ouh, celle-là aussi, elle est pleine de pollen,
elle est,
dis donc.
Bien chargée de pollen, oui, de pollen jaune.
C'est comme si elles avaient des petits ballons sous les pattes.
Des petits ballons sous les pattes, des pelotes. Et leurs pattes arrière ont des petites brosses pour pouvoir stocker ces pelotes. Qui reste bien accroché pendant le vol.
Attachez vos ceintures. Pollen et nectar qu'elle trouve en ce moment dans les tilleuls, sophoras et lierres grimpants du coin, avant les noisetiers et saules marceaux au printemps.
Ce sont des miels que moi je trouve, et un certain nombre de gens trouvent, excellent. Et on a eu une médaille d'or, donc il a été reconnu comme un miel excellent. Il n'y a aucun polluant dans le miel.
Vendu uniquement aux adhérents de Radio France. Mmh. 10 euros par an, les amis, allez-y.
Bien, ça fait combien de temps, Camille, qu'il y a des ruches à Radio France?
Bientôt 10 ans. Notre passionnant apiculteur amateur a lancé l'association après s'être formé. Objectif pédagogie et sensibilisation.
Nous ne sommes pas un rucher de production, nous sommes un rucher de démonstration. On ne va pas sauver le monde avec 6 ruches, mais c'est une activité qui est faite en interne, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui louent des ruches pour avoir l'air d'eux.
C'est une façon de sensibiliser aussi.
Exactement, le public, au travers des journalistes que je peux croiser dans cette maison, comme vous.
Voilà, donc je fais passer le message. Ah ouais. Et Jean-Christophe Rousseau, il en a un autre de message au sujet, cette fois de sa présidence.
Je suis toujours élu avec des scores soviétiques, du 100%, parce que bon, ça se précipite pas, j'ai pas grande concurrence. Mais là, ça fera 10 ans bientôt que...
Vous cherchez un successeur.
Voilà, oui, bien sûr.
Alors, avis aux amateurs, hein, l'apiculteur chanteur voudrait profiter de sa retraite à la campagne avec ses autres ruches.
Oui, tantôt, je chantonne. Je suis pas sûr qu'elle soit tellement sensible à ça, mais...
Vous nous tentez un truc?
Oh, bon. Non, il me faut l'orchestre. Amenez l'orchestre et je vous chante ce que vous voulez.
Oh, allez.
Bella figlia dell'amore. Mais c'est un air de ténor, mais je peux pas chanter. Je suis baryton bas, c'est un peu compliqué.
On n'entend pas Camille Cronier chanter, tiens. Camille Passauvert, à réécouter sur franceinter.fr. Vous, Paul Touret, à l'Institut supérieur d'études maritimes de Saint-Nazaire, vous avez des ruches?
Non, on n'a pas des ruches, mais on est en bord de mer, mais on a d'autres agréments. On fait des grands paquebots, ce qui n'est pas comme les ruches, mais ce qui est la fierté
nazarienne. Ce qui n'a rien à voir.
Non, mais c'est la fierté nazarienne.
Ce qui n'a rien à voir. Paul Touret est notre invité ce vendredi dans la Terre au Carré. Si vous avez des questions sur le transport maritime, vous pouvez profiter évidemment de sa présence. 01 45 24 7000. Sur l'application mobile de France Inter et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Je ne sais pas si vous aimez le rap, Paul Touret, mais voici deux des plus talentueux de la scène francophone, Oxmo Puccino avec Aurel San, Ma Life sur France Inter.
Ox, c'est quoi ce grand sourire sur ton visage?
Je me disais que les gens ne savent pas à quel point on a réussi notre life.
Ma life.
On a réussi notre life.
Ah ouais. Ha ha ha, j'ai réussi ma life. Demain je sais pas, mais aujourd'hui j'ai réussi ma life. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pris ma place? J'suis même pas sûr que t'aurais réussi ma life. Sneakers classés, j'ai réussi ma life. J'ai racheté tous mes jouets, j'ai réussi ma life. J'ai plus rien à prouver, j'ai réussi ma life. Putain, j'ai réussi ma life, je me lève à midi. Y'a des choses qui vaut mieux remettre au lendemain comme le suicide. Oui, oui, je maîtrise la chimie. S'il y a du rap de Yonkli, je dois être le scientifique, celui qui s'enrichit. Perdu dans mes pensées quand y'avait pas de plan. Absent, avant, quand la vie n'avait pas de sens. Quand j'étais pas sûr d'avoir du talent, quand j'y croyais pas. Boule au vent, tellement gros, je pouvais faire des caméas. J'ai la formule secrète, j'ai des nouveaux et des vieux textes. Des vérités, ils sont des peut-être, mes ex me regrettent. J'ai réussi ma life, j'ai plus genre de truc où tu te sens sale comme après degré. C'est ta Rolex mais c'est mon heure. Ta percée c'est super, maintenant essaye de tenir la longueur. Je rentre en boîte en Quechua, je suis fidèle. C'est pour ça que ta pétasse rentre chez toi, n'est-ce pas? Je voulais écrire pour ces petits bâtards, mais la seule chose que j'ai trouvé à dire c'est ha ha. J'ai réussi ma life, j'ai réussi ma life. Oxorel était sur la rythmique à face.
Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Un nouveau moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins. Trouver des formules pour frimer des choses simples. Positivité recto verso, je remercie la vie quand je me sers un verre d'eau. Tu sais ce que ça fait de sentir happy après autant de réveils sur le tapis. Sous la pluie, assis sur un banc, porte de pantin, sans aucun plan, aucun tapin. Je chante avec nonchalance, à ton avis, si t'es pas fan, je m'en balance. Dans le plaisir de chaque instant, depuis que je me remets de la délinquance. Primés, ils n'ont aucune raison de s'en devenir meilleur qu'une saison 2. Je vais m'en sortir avec Aurel en fit solide, pas comme une clope et Oli. Tu peux enchaîner les cadeaux, c'est toi le prisonnier. Pas, tu tombes dans les 10 premiers rounds. Tellement de blindés qui ont raté leur life. À cette heure précise, j'ai réussi ma life.
life. J'ai réussi ma life. Ma life. Réussi ma life.
Oxmo Puccino avec Aurel San. Ma life réussie, hein, apparemment, sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Élodie Font sur France Inter.
Paul Touret est l'invité de La Terre au Carré. Il dirige l'Institut supérieur d'études maritimes de Saint-Nazaire et il a fait le chemin jusqu'à nous pour répondre à toutes vos questions, les vôtres au 01 45 24 7000. Nous sommes en ligne avec Joël. Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
Votre question pour Paul Touret.
Je me demandais ce qu'on allait faire du fioul lourd, parce que c'était un peu le déchet des raffineries qu'on arrivait à faire brûler dans les bateaux, quoi. Et maintenant, puisqu'ils n'ont plus le droit de l'utiliser, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Est-ce que ça va être dispersé dans la nature? Est-ce qu'on va en faire du revêtement de route ou quoi?
Oui, merci pour votre question.
Parce que c'est le déchet des raffineries, il y aura bien un truc.
Évidemment, oui. Paul Touret vous répond.
Alors, c'est pas exactement le déchet, on va dire, c'est la fin de colonne de raffinage. Après, il y a le bitume, hein, qui est un autre produit. En fait, il y a l'utilisation qui peut continuer malheureusement dans les centrales thermiques. Pour le monde maritime, à court terme, il y a une partie qui va être quand même utilisée par le transport maritime parce qu'on met sur les navires, on appelle des épurateurs, en anglais scrubbers, qui nettoient en fait le dioxyde de soufre. Alors soit ils le mettent dans l'eau, soit ils le mettent dans des réservoirs qu'il va falloir traiter. Et puis sans doute l'industrie, enfin c'est ce qui va se passer, l'industrie pétrolière en fait va enlever le soufre dans ce fioul lourd. Donc on va avoir un fioul lourd désoufré dont le prix est à peu près 40-50% plus cher. Donc
ah oui,
on est
même
sur une tonne à $400 aujourd'hui, on sera à $600 peut-être demain. Donc on va avoir un pétrole désoufré, un fioul désoufré que le transport maritime va pouvoir utiliser. Sauf qu'évidemment, il coûte $200.
Donc $1, c'est à peu près 1 euro en ce moment.
1 euro à peu près. Donc ça veut dire que ce fioul lourd va toujours exister, il va être dans un processus industriel différent et il va coûter un peu plus cher. D'où le fameux renchérissement qu'on attend du transport maritime parce que de toute façon, ils vont consommer cela.
Alors, si et on a une idée de combien ça va nous coûter en plus? À nous ?
Malheureusement, on n'a pas une idée. Alors, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'ils consomment du diesel. Parce que c'est aussi l'autre perspective, c'est d'utiliser du diesel. Et comme il y a déjà les voitures, une partie du parc automobile européen, et surtout le parc de camions dans le monde, si le transport maritime qui consomme à peu près 5% du diesel mondial, à peu près 100 millions de tonnes, s'il passe à 200 millions, effectivement, il y a une pression sur le diesel. Alors, on pense que c'est momentané. Pour expliquer, ça va un peu se tuiler parce que au 1er janvier, il y a ces nouvelles mesures, beaucoup de diesel et puis progressivement sur le pétrole désoufré. Vous voyez, c'est un processus qui va être un petit peu...
Il
y a des armateurs qui n'y croyaient pas en plus, hein, pour vous dire.
Nicolas, sur Twitter, pour rebondir avec ce que vous venez de dire, Paul Touret, nous dit « La plupart des armateurs ont adopté les épurateurs de fumée et rejettent le soufre dans les océans. Donc concrètement, ça change rien. »
L'avantage, c'est que alors, il faudrait voir dans les océans son effet, si c'est un effet négatif pour la faune maritime, ou si c'est un effet sur le réchauffement climatique. Pour l'instant, on fait le choix de lutter contre le réchauffement climatique. Mais effectivement, il y a une contestation et un processus de remise en cause de ce qu'on appelle les scrubbers à boucle ouverte, en fait, qui rejettent
Donc les scrubbers, ça ressemble à quoi?
Alors c'est en fait, on fait passer le gaz dans de l'eau avec des processus chimiques et en fait on sépare, la fumée ressort d'un côté propre de ce dioxyde de soufre et on a du liquide avec du dioxyde,
le
soufre à l'intérieur pour résumer. Soit on fait à boucle ouverte, en fait on ouvre, il part à quelques mètres du navire, soit à boucle fermée, il est stocké et les ports gèrent ce déchet, voilà. Alors c'était au départ boucle ouverte parce que c'était moins cher, hein, ça coûte quand même 7 à 8 millions de dollars sur un bateau, ça a un petit prix, mais c'est pas énorme. Si on commence à contester, on a plusieurs pays, par exemple Singapour, on a vu la Malaisie, on parle de la Chine, l'Union Européenne ne l'a pas encore fait, on pourrait très bien avoir une remise en cause sur les boucles ouvertes, donc sur le rejet, ce qui amène à un stockage, une gestion des déchets, enfin voilà, une contrainte nouvelle pour le monde maritime.
C'est très compliqué, hein, quand même.
C'est le fonctionnement du monde maritime qui est technique, mais sans être vraiment complexe.
Nous sommes en ligne avec Jackie, bonjour.
Bonjour Élodie Font.
Merci de m'appeler Élodie Font, mais je ne connais même pas votre nom de famille, je ne peux pas vous appeler avec votre nom de famille.
Je vais vous appeler Élodie.
Alors très bien, comme ça on est à égalité.
Et bonjour votre invité et France Inter.
Vous nous appelez d'où, Jackie?
Oui, merci. Je voulais poser une question très pragmatique à votre invité. Il existe depuis plus de 20 ans maintenant des technologies, alors qu'on appelle nouvelles, donc qui devraient être intéressantes, mais on en parle, mais on ne voit jamais. Par exemple, des grands cerfs-volants au-dessus des paquebots, qui permettrait une traction grâce au vent qui ne pollue pas. Il existe aussi des moteurs hybrides avec des panneaux solaires et des propulsions qui sont 50-50, on va dire, avec de l'électricité propre. Pourquoi ces technologies alors qu'on devrait faire un grand plan d'urgence, c'est-à-dire se mobiliser pour faire justement des choses qui soient vraiment moins polluantes, on se limite à faire des petites mesures, mais la consommation des bateaux va rester la même et le CO2 va continuer d'augmenter. Donc il faut faire un grand plan d'urgence. Pourquoi ces nouvelles technologies et on n'utilise pas le vent pour les transports maritimes? Et puis bien sûr, la première chose, ça serait de baisser les échanges internationaux parce que
merci,
ça devient intenable.
Merci, d'autant plus que cette question revient souvent au standard et dans les mails que l'on reçoit. Paul Touret vous répond.
Alors, on est à une grande époque d'innovation. Ce changement fondamental oblige à chercher. Et en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, on est enfin rentré dans le 21e siècle maritime. Alors, on parle de la voile, on peut parler des carburants alternatifs, hein, des biocarburants, on parle du méthanol, on parle de l'hydrogène. Ça oblige à chercher. Faut pas oublier qu'on parle pas d'une voiture, d'un camion, on parle de bateaux qui font jusqu'à 300-400 mètres, qui ont des emports de 250 000 tonnes. Enfin, ce sont quand même des monstres. Alors trouver des solutions alternatives, c'est encore difficile, mais on le voit notamment avec aujourd'hui le GNL qui n'est pas, enfin le gaz naturel liquéfié, qui est pas la panacée à tout, mais qu'on commence à installer sur des paquebots, sur des porte-conteneurs, sur des ferries en Méditerranée.
Enfin, ça a l'air assez compliqué encore.
Voilà,
hein.
Il y a la voile, on le teste, on va justement avoir au départ de Saint-Nazaire une ligne qui va se mettre en place ces quelques temps. Là, qui s'appelle Neoline, on voit que Ariane va être transportée avec un navire à voile aussi, enfin mixte. On a des choses en Scandinavie. Et puis, il faut pas oublier les grandes compagnies maritimes. On a eu, je veux une célèbre marque de bois, de fabricant de meubles en bois, logo bleu et jaune par exemple, des transporteurs en Scandinavie. On a beaucoup comme ça de grandes entreprises du monde maritime. On a des chargeurs. On sent que, alors, est-ce que c'est du greenwashing, est-ce que c'est du verdissement, est-ce que c'est de l'innovation? Cette époque est intéressante pour ça. Mais en tout cas, le transport maritime d'aujourd'hui doit changer. Il est en train de changer. Maintenant, il n'y a aucune solution satisfaisante. On cherche. Et c'est sûr qu'en 2030, il sera un peu différent. Mais on est au balbutiement et on est à une époque de formidable nouveauté. Et pour terminer, il faut des politiques publiques. Et ce monsieur a tout à fait raison. Il faut des grands engagements. La France en fait, mais aussi dans des états maritimes comme le Japon, la Norvège, le Danemark, l'Italie. Il faut de la recherche. Il faut soutenir pour pouvoir justement aller de l'avant.
La France aimerait par exemple que la prochaine étape, ce soit de diminuer la vitesse des navires de commerce. Mais pour l'instant, ça coince un peu.
Alors, la France veut la limitation de la vitesse, il y a certains pays qui veulent la limitation de la puissance. Alors est-ce qu'il faut mettre un panneau en disant on va pas plus vite, ou on contrôle, on a des moyens aujourd'hui de contrôler la vitesse, ou alors simplement on bride les moteurs pour pas qu'ils aillent. On voit bien que c'est des questions. C'est vrai que la France est en avant, est-ce que c'est la bonne solution? Justement, c'est l'OMI dont on a parlé tout à l'heure qui peut régler les choses, mais on voit qu'on veut changer. Encore une fois, le verdissement ne doit pas être un greenwashing XXL d'une industrie XXL. Ça doit être un vrai processus qui change, et comme l'a dit ce monsieur derrière, n'oubliez pas, hein, c'est vous qui faites le transport maritime.
Chaque fois
que vous allez au supermarché, que vous allez acheter des choses, que vous avez envie de quelque chose, malgré vous, hein, que ce soit alimentaire ou dans les biens manufacturés, vous êtes vous-même un client du transport maritime. C'est presque vous qui appelez la marchandise, même si vous n'en avez pas l'impression.
Michel nous écrit par mail et nous dit « Quid de la pollution des navires militaires, puisque eux aussi brûlent du carburant propre. Je vis à Toulon et le port est sacrément pollué. »
Effectivement, je crois qu'il y a les mêmes réglementations, il faudrait vérifier, mais il y a peut-être les mêmes réglementations hein, d'utilisation des carburants. C'est vrai que de toute façon, le transport maritime militaire faudra évoluer. Là, on sait bien que les militaires, en termes d'innovation, ont toujours un cran d'avance. Parce qu'il y a peut-être des moyens de reconnaissance, etc. Et il faudra. Alors, est-ce qu'il sera à voile? J'en sais rien. Est-ce qu'on va faire à nouveau la navire à voile à Toulon? C'est un peu difficile. Encore que, comment sera le transport maritime et le transport militaire en 2060? On n'en a strictement aucune idée. Et peut-être que le manque de carburant fera que la voile, le solaire ou toute forme d'énergie, il est encore une fois, on débute une époque peut-être dans quelques jours.
J'ai lu plusieurs fois qu'un paquebot polluait autant qu'un million de voitures. Puisque je suis avec vous, Paul Touret, terminons avec cette question. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Je n'ai pas compté toutes les voitures. Je pense que c'est peut-être exagéré. La question, c'est qu'on est souvent sur du militantisme environnemental qui est très poussé versus du lobbying professionnel qui se défend. C'est pour ça qu'il faut aussi de la politique publique en termes de mesures. C'est une vraie nuisance. On ne peut pas contester que la présence de ces bateaux, car ferries et paquebots dans les villes portuaires de Méditerranée, mais aussi d'Europe du Nord, sont une nuisance. Il faut réduire les particules fines. J'ai vu une carte sur les Pays-Bas. L'essentiel des particules fines sont quand même autour de Rotterdam, même si les Pays-Bas est peuplé de 16 à millions d'habitants qui polluent beaucoup. Et puis j'ai vu autre chose qui est intéressant, c'est que les particules fines autour d'un navire sont très importantes. Et les premiers à subir la pollution des particules fines sont peut-être les passagers. Et demain, le passager est aussi quelqu'un qui est sensible à l'environnement et peut demander d'avoir un environnement plus sain. D'où aussi, justement, l'équipement beaucoup plus massif de navires en solutions alternatives.
Ce que l'on peut retenir, Paul Touret, c'est que l'on cherche des solutions, mais on cherche pour l'instant. On n'a pas trouvé.
On est en train de chercher d'innover. Il y a une forme de quadrature du cercle que le transport maritime est en train de voir autour des carburants. Si on posait la même question sur nos voitures, vous verrez que les problèmes sont les mêmes.
Vous venez de l'entendre ? Il est 14h sur France Inter.
France Inter, la Terre au carré.
Seconde demi-heure de la Terre au carré. Dans vos solutions pour la planète, nous partirons explorer les Alpes qui subissent d'ores et déjà de plein fouet le dérèglement climatique. Une association propose à tous les riverains d'aller eux-mêmes récolter des données sur l'évolution des espèces. Et puis, nous briserons la glace avec notre invitée découverte, Marie-Lou Athanase. Cette jeune chercheuse revient de 6 semaines en Arctique, où elle aussi a observé de très près l'évolution du climat. Mais pour le moment, cette chronique n'a jamais aussi bien porter son nom que pendant les fêtes, la chronique Détox. Bonjour Caroline Tourbe.
Bonjour Elodie.
Alors sommes-nous, oui ou non, en train de vivre la 6e grande extinction du vivant ? C'est la question que vous vous posez aujourd'hui.
Oui Elodie, extinction hors note, extinction, that is the question que je me suis posée, enfin plutôt les questions que je me suis posées, parce que c'est quoi une extinction ? Combien est-ce qu'il y en a eu déjà ? 2, 5 ou même 6, auquel cas nous serions en train de vivre la 7e. Et au fait, est-ce qu'on est vraiment en train de vivre une nouvelle extinction ? Donc tout ça c'est assez compliqué, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le mot extinction, lui, peut concourir au palmarès des tendances de l'année 2019. Le mérite en revient en grande partie au mouvement Extinction Rebellion et à ses activistes qui prônent la désobéissance civile et organisent des blocages spectaculaires un peu partout dans le monde.
Extinction ! Rébellion !
Fissement des sols, désertification, montée des eaux, nous sommes en train de vivre l'apocalypse.
Bon, là, on l'entend, hein. Les mots choisis par les membres du mouvement sont là pour marquer les esprits, mais si ces militants et d'autres avec eux estiment que nous vivons actuellement la 6e grande extinction du vivant, mais ce n'est pas le cas de toute la communauté scientifique, loin de là.
Oui, parce que derrière ce mot extinction, on trouve aussi beaucoup d'incertitudes et énormément de fantasmes.
Oui, Elodie, dans sa définition stricte, une extinction de masse correspond à la disparition d'au moins 75% des espèces animales et végétales sur Terre et dans les océans. Donc a priori, c'est clair. Sauf que dès qu'il s'agit de l'appliquer, eh bien ça se corse. Même s'agissant du passé, les scientifiques ne sont pas tous d'accord entre eux. À la question simple, combien y a-t-il eu d'extinctions massives ? Le chiffre le plus souvent évoqué est celui de 5, avancé en 1982 par les paléontologues David Rope et John Sepowski. Les chercheurs ont identifié 5 moments au cours desquels le nombre exceptionnel de disparitions totales d'espèces a provoqué une chute de la biodiversité. La première extinction se situe à la fin de l'Ordovicien, moins 400 45 millions d'années. La dernière, la 5e, celle de la fin des grands dinosaures, s'est déroulée au Crétacé il y a 65 millions d'années.
Ça semble assez dingue, moins 445 millions d'années. Sauf que ces données, elles sont régulièrement débattues.
Oui, parfois, parfois c'est pour ajouter une extinction à la liste. En septembre dernier, par exemple, des chercheurs de la New York University ont signalé qu'on avait peut-être oublié au passage une extinction à la fin de l'époque géologique baptisée Guadeloupien, il y a 260 millions d'années. Si cette hypothèse est validée, ce n'est pas encore le cas. Cela voudrait dire que la 6e extinction, en fait, elle a déjà eu lieu et que donc l'homme est en train de causer une extinction. Mais c'est la 7e.
Reste que la plus connue de tous, c'est la fameuse extinction qui a vu disparaître les grands dinosaures il y a 65 millions d'années.
Oui, c'est elle qui nourrit nos fantasmes les plus fous.
Nous avons chronométré le Tyrannosaure Rex à 40 km/h.
Vous avez un T-Rex ? Vous dites que vous avez un T-Rex ?
Redites ça. Oui, nous avons un T-Rex.
Oh.
Mets ta tête entre les genoux. Oh.
Professeur Grant, mon cher professeur Sattley, bienvenue à Jurassic Park.
Ça fait très film de Noël.
Et oui, revoir les grands dinosaures. Alors, parce que eux, ils ont disparu, c'est certain. Mais faut-il pour autant parler d'une grande extinction pour cette période du Crétacé? Eh bien, ça, c'est débattu. Si l'on applique la définition stricte du mot extinction, ce n'est pas tout à fait le cas, comme me l'a expliqué Maxime Powels, chercheur en écologie évolutive à l'Université de Lille. Les cinq extinctions les plus analysées l'ont été à partir des seules données à disposition, celles des fossiles marins. Or, si la vie se déroulait en très grande partie dans les océans au début du vivant, ce n'est plus le cas ensuite.
Oui, parce que les fossiles terrestres, eux, ils racontent une autre histoire.
Oui, par exemple, pour les mammifères, leur destinée face à la crise du Crétacé n'est pas du tout celle d'une extinction. Les grands groupes actuellement connus semblent être tous apparus avant la disparition des dinosaures et auraient tous survécu, comme le signale Maxime Powels. Au final, si on réexamine tout, il n'y aurait eu qu'une seule vraie extinction massive, celle de la fin du Permien, il y a 252 millions d'années.
Et donc aujourd'hui, on serait en train de vivre la deuxième extinction.
Oui, enfin, sauf que si on continue avec les mêmes critères stricts, nous ne vivons pas du tout une période d'extinction. Certes, 1% des vertébrés ont déjà disparu, et la liste officielle des espèces menacées d'extinction compte plus de 27 000 espèces, 27 000 noms, soit près du tiers des espèces suivies. C'est énorme, mais en réalité, il est bien trop prématuré pour conclure que nous allons vers une extinction massive aujourd'hui. En revanche, on peut parler de déclin accéléré de certaines espèces, pour la plupart en lien avec les activités humaines. Mais parler d'extinction, cela relève plus d'une vision fataliste de notre futur. Or, nous pouvons encore agir, nous les humains. Les espèces menacées ne sont donc pas fatalement amenées à disparaître. Rien n'est écrit, tout reste à faire.
Ah, c'est beau comme message, 27 décembre. La chronique Détox de Caroline Tourbe à réécouter sur franceinter.fr. À vendredi prochain, Caroline.
À vendredi.
Lundi à la même heure, notre feuilleton de la semaine prochaine. Vivre dans un monde qui fond. Lundi, nous suivrons donc notre journaliste Guy Vanctil au Groenland, plus précisément sur le premier glacier islandais. Le premier glacier islandais officiellement disparu à cause du réchauffement climatique. Un petit avant-goût avant le week-end.
Il y a marge dans la neige. Mais je trouve compact et dur. Dans laquelle je m'enfonce. Voilà, qu'un petit ruisseau surgit. C'est de l'autre glacier. Ce qui reste du glacier Ugljökull qui est en train de fondre et de dévaler la pente.
My name is Oddur Sigurðsson. I've been following and monitoring glaciers for more than three decades.
Voilà plus de 30 ans que vous surveillez les glaciers.
Glaciers, they contain history. They are
les glaciers contiennent de l'histoire.
They contain layers of snow, annual layers.
Chaque année, des nouvelles couches de neige s'accumulent.
One on top of the other.
L'une au-dessus de l'autre.
And we can read from these glaciers through the ages.
En étudiant les glaciers, on peut lire vraiment à travers toute son histoire.
When the glaciers melt, this history is lost.
Et quand les glaciers fondent, comme c'est le cas d'Ugljökull, cette histoire-là disparaît.
It is like burning our manuscripts.
C'est comme si on brûlait nos manuscrits.
La suite, lundi, dans la Terre au carré. Un monde qui fond, on en reparle en fin d'émission avec notre invitée découverte qui, elle, revient de 6 semaines en Arctique.
France Inter, la Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Bonjour Colin Van Rett.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous nous appelez de Chamonix. Vous voyez la montagne par la fenêtre? Faites-nous rêver.
Alors, on voit la montagne, on voit la neige, mais le plafond nuageux est assez bas, donc on voit pas énormément de choses. Non,
donc le rêve est assez limité, finalement. Vous êtes écologue et salarié du Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, qui travaille notamment sur le Mont Blanc. Vous observez, dans les Alpes, comment les espèces répondent au changement climatique. Pourquoi c'est une zone intéressante à surveiller?
Alors, la zone de Chamonix, on est située, comme plus globalement les Alpes du Nord, sont un territoire où le changement climatique se fait particulièrement sentir, dans la mesure où en 60 ans, dans les Alpes du Nord, la température a augmenté de 2 degrés, ce qui est deux fois plus qu'à l'échelle de l'hémisphère nord.
Donc 2 degrés en 60 ans dans les Alpes, en plus.
Dans les Alpes du Nord, oui, tout à fait.
D'accord.
Exactement.
Donc c'est deux fois plus qu'en moyenne dans l'hémisphère nord.
Voilà, exactement. Et ce qui en fait un terrain plus localement dans le massif du Mont-Blanc tout à fait intéressant à étudier, c'est le fait que on a un ensemble de milieux extrêmement diversifiés dans la mesure où on a un gradient d'altitude qui est particulièrement impressionnant dans la mesure où on part de 500 mètres d'altitude jusqu'au sommet du Mont-Blanc, donc un peu plus de 4800 mètres, et en seulement quelques kilomètres.
Je le disais, donc oui, dites-moi.
On a une très grande variabilité climatique qui fait qu'on a une très forte concentration de milieux différents, ce qui en fait un lieu particulièrement riche en biodiversité.
Dans le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude où vous travaillez, vous avez lancé un programme de science participative qui s'appelle Phénoclim. Participatif parce que tous les habitants de la région peuvent venir observer les espèces, et pas que de la région d'ailleurs, hein, ça se déroule dans plusieurs endroits en France.
Oui, exactement. Donc Phénoclim, c'est un programme scientifique et pédagogique qui invite le grand public à mesurer l'impact du changement climatique sur les plantes et les arbres en montagne, en faisant tout simplement des observations saison après saison du développement de la végétation de 13 espèces. Donc on a lancé ce programme en 2004, donc il y a désormais 15 ans, initialement dans le nord des Alpes. Donc autour de chez nous, on a rayonné, on a gravité autour des Alpes du Nord, puis désormais, plus globalement, dans tous les massifs montagneux en France et les massifs transfrontaliers, que ce soit les Alpes, les Pyrénées, le Massif Central, la Corse, les Vosges.
À peu près partout où il y a de la montagne, en fait.
Voilà, exactement.
Et ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste, en fait. On peut aller regarder à quel moment dans l'année les bourgeons de tel arbre sortent, et on le note et on vous envoie les résultats. C'est comme ça que ça se passe.
Tout à fait. On a développé à la fois un site web et une application mobile pour faire en sorte que à l'automne et au printemps, on va guetter, comme vous le rappeliez, le moment où les bourgeons vont s'ouvrir, les moments où les fleurs et les feuilles vont s'épanouir. Et on va transmettre les informations grâce au site web ou l'application mobile. Et à l'automne, on va simplement noter à quel moment est-ce que les feuilles changent de couleur.
Et ensuite, ce sont des infos qui sont transmises aux scientifiques.
Tout à fait. Elles sont transmises directement. Alors, il y a tout un processus de validation de données pour s'assurer que les données qu'on reçoit, qui sont nombreuses, on a 45 000 observations depuis la création du programme, qu'elles soient utilisables. Et on a quelques outils statistiques qui nous permettent de nous faciliter un petit peu la tâche pour cela.
Et est-ce que vous observez déjà des temps de décalage en 15 ans, ou c'est un peu trop tôt pour avoir du recul, Colin Van Rett?
Alors la question se pose effectivement dans le milieu de l'écologie et dans cette branche de l'écologie qui est vraiment l'analyse des effets du changement climatique sur les milieux et les espèces. On part souvent du principe qu'il faut 30 ans de données pour pouvoir appréhender des effets sur la biodiversité.
Donc évidemment 15 ans, c'est un peu court.
Donc 15 ans, c'est un petit peu court. Ce qui reste assez impressionnant, c'est qu'on a malgré tout des tendances assez nettes qui se dégagent. Je pense par exemple à une espèce comme le bouleau, qu'on retrouve à la fois en plaine comme en altitude. Le bouleau, on a observé que l'ouverture des bourgeons entre 2006 et 2016 avait avancé de 4 jours. Et concernant le frêne,
Un peu
plus de l'ouverture des bourgeons de 6 jours.
Merci beaucoup, Colin Van Rett. Toutes les infos sur phénoclim.org. Dans un instant, l'invité découverte, Marie-Lou Athanase, va nous embarquer sur un brise-glace à travers l'Arctique. Pour ceux qui confondent toujours avec l'Antarctique, l'Arctique est au nord. Mais avant, c'est un hymne à s'aimer soi-même. Ayo, Beautiful, sur France Inter.
You're looking in the mirror. You can see yourself. What you see is a reflection of somebody else. Now, if you want to find you, you gotta look underneath that shell. That's where you find true beauty, that of a precious pearl. Don't you know you're beautiful just the way you are?
hair straight, but the frizzy look wouldn't suit my face. I grow it out, but that wasn't enough, until chemicals will break my hair off. And then I knew God gave me a sign, I had to love myself so I could shine. I would let my fro grow back and wear a fisticomb instead, and put on a shirt that said black and proud.
Ayo Beautiful, extrait de son nouvel album Royal, qui sortira le 31 janvier prochain.
La Terre au carré. Élodie Font.
Putain de merde!
Y'a quelqu'un qui m'entend?
Oui, qu'est-ce que vous voyez?
Un iceberg droit devant!
Iceberg droit devant!
Un devant, tout!
Ah, Titanic! Vous aussi, Marie-Lou Athanas, vous aviez Leonardo DiCaprio et Kate Winslet en poster géant dans votre chambre d'ado ou pas du tout?
Alors, pas du tout, désolée de vous décevoir.
Je me sens pas seule, c'est pas grave. Pas du tout.
Non, du tout, vraiment, c'était pas tout à fait ma tasse de thé.
Bon, alors je vous dis bonjour quand même si nous n'avions pas les mêmes goûts cinématographiques. Vous êtes doctorante en océanographie physique de l'Arctique centrale au laboratoire L'Océan, et fait rare quand on a un nom de métier aussi long. Vous êtes jeune.
C'est ça, j'ai 25 ans.
Marie-Lou Athanas, vous revenez tout juste d'une expédition dont on avait envie de parler à bord d'un brise-glace. Vous nous avez rapporté ce son.
Good morning everybody. Today, Wednesday, the 9th of October, 6:07 o'clock. Participants of expedition, wake up. Good morning.
Et là on entend la glace qui se brise. Nous sommes en Arctique. À quoi cela ressemble autour de vous quand vous enregistrez ce son?
Alors à ce moment-là, ce qu'on entend, c'est le son d'une carotte de glace qu'on prend sur la banquise, et autour de nous, c'est de la glace compacte, donc ça veut dire qu'on a entre 1 à 2 mètres de glace autour de nous, et c'est blanc, c'est totalement blanc, donc on a un paysage assez infini de banquise qui est assez plate, mais il y a quand même un petit peu de relief avec des petites crêtes, des petits reliefs tout autour de nous, et un ciel assez dégagé ce jour-là d'ailleurs, avec un très très beau soleil rouge à l'horizon, donc c'était assez impressionnant.
Relief, c'est quoi? C'est des toutes petites montagnes, on pourrait dire?
Ouais, c'est ça, on peut avoir des petites collines de glace. Quand je dis des crêtes, c'est des morceaux de glace qui sont entrés en collision les uns avec les autres, donc ça s'est un peu soulevé, un petit peu comme ce qu'on a tendance à représenter quand on parle de subduction aux enfants, de plaques tectoniques qui se collisionnent. Donc on a des petites crêtes qui se forment, et on peut avoir aussi des petites caves, des très très belles choses.
Et vous ressentez quoi à ce moment-là? Parce que ça doit être assez dingue quand même d'être au milieu de l'Arctique comme ça.
Oui, on se dit qu'on a un métier qui est assez sympa, avec un bureau plutôt agréable. Non, mais après je dis ça, mais c'est pas non plus notre quotidien, ça reste des expériences qui sont assez exceptionnelles. Non, quand on est dans cet environnement-là, on se dit qu'on a énormément de chance.
Mais vous étiez surprise? Vous vous attendiez à un tel paysage?
J'étais pas vraiment surprise. du paysage en lui-même. Par contre, la sensation qu'on a quand on est sur place, évidemment, c'est assez indescriptible. C'est juste, on a l'impression d'être... d'avoir une chance unique et qu'on doit absolument en profiter de chaque seconde, parce que ce qu'on voit, c'est pas forcément ce qu'on verra dans notre quotidien le reste du monde, le reste du temps.
Vous étiez donc sur Brise-Glace, dans le cadre de la plus grande campagne de recherche scientifique jamais réalisée en Arctique, l'expédition Mosaïque, qui va durer un an. Qu'est-ce que c'est cette expédition ?
Alors, comme vous l'avez dit, c'est la plus grande expédition qui a jamais été mise en place dans l'Arctique. Donc l'objectif, en fait, c'est que d'organiser toute cette expédition-là pour pallier au manque de données observationnelles en Arctique, parce que c'est un milieu qui est difficile d'accès. Donc on a beaucoup de banquises qui rend l'accès évidemment assez difficile dans ces zones-là, mais aussi des températures qui sont très froides. Donc ça, c'est l'objectif. Et le concept, c'est que tout s'organise autour d'un brise-glace allemand qui s'appelle le Polarstern, qui est allé s'amarrer à un pan de banquise en septembre dernier, donc en septembre 2019, et qui va se laisser dériver pendant un an avec ce morceau de banquise à travers l'océan Arctique. C'est-à-dire que le bateau ne fait rien, c'est la glace qui décide du chemin.
Et pendant un an... vous ne brisez pas la glace, en fait.
Le brise-glace, en fait, a fait son rôle de brise-glace pour aller rejoindre le morceau de banquise choisi. Mais à partir de septembre, donc, 2019, le brise-glace ne brise plus de glace.
Non, parce que j'allais vous poser la question, je me demandais si ça avait un impact sur l'environnement quelque part, ou si elle se refermait derrière la glace très, très facilement une fois qu'on l'a brisée.
Alors, une fois qu'on a brisé la banquise se reforme très très vite. Nous, donc, quand on était sur place, quand on se laissait pendant quelques jours, on reposait entre guillemets sur un morceau de banquise. Au bout de 24 heures, la glace se reforme. On a une petite couche assez fine de glace et au bout de peut-être un jour ou deux, on a quelque chose de plus solide qui commence à apparaître.
Ah oui, c'est très rapide.
C'est très très rapide.
Et l'objectif de cette expédition, c'est d'améliorer les modèles climatiques mondiaux et de fournir des prévisions plus fiables sur l'évolution du climat. Concrètement, comment ça se passe au quotidien quand on est sur ce bateau ?
Alors, donc moi, je précise simplement que j'étais pas sur le bateau Polarstern, qui est au centre de l'expédition. J'étais sur un bateau de soutien qui a accompagné le Polarstern et qui l'a aidé donc en allant déployer tout un réseau d'instruments qui étaient autour du Polarstern. Donc on a toute une petite constellation d'instruments qui viennent en soutien de l'observatoire central qui est sur le Polarstern. Et donc notre vie au quotidien sur un brise-glace de recherche malgré tout, c'était donc pas mal d'attentes, puisque avant de se trouver sur un site de déploiement, il faut déjà y arriver, donc ça peut prendre du temps. Choisir le site de déploiement peut prendre beaucoup de temps. Et une fois qu'on arrive sur un site de déploiement, par contre, là, il faut vraiment être prêt. Le respect des horaires est vraiment très, très important. Il faut être à l'heure dite, prêt à descendre, parce qu'on n'a pas une minute à perdre, parce qu'on peut avoir des fois des déploiements qui durent 8 à 9 heures sur la banquise. Et là, on joue un peu, c'est un peu contre la montre, puisque quand on n'a plus de lumière, après, on est un peu forcément dans des conditions où on est plus dans le froid, on est plus en danger, puisqu'on voit moins bien. Il y a quand même toujours l'idée qu'on a des ours polaires qui peuvent être pas loin. Donc, évidemment, il faut finir au plus vite.
Marie-Lou Athanase, l'Arctique, elle est très dure à observer. Pourquoi ?
Alors, pour plusieurs raisons. Donc,
il
comme
ou elle,
je le,
d'ailleurs,
c'est
l'Arctique.
Île, je pense.
Île, plutôt, oui, parce que j'ai eu envie de l'appeler, parce que comme on parle de banquise, j'ai eu envie de la féminiser, mais non, c'est
mais
le.
Pourquoi pas ? Je trouve ça assez joli comme idée, mais a priori, moi, j'ai tendance à dire l'océan Arctique, donc plutôt île. Donc c'est difficile à observer parce que, comme je disais, on a des conditions qui sont difficiles. Donc pour emmener un bateau, l'air de rien, ça nécessite quand même de grosses ressources humaines et matérielles, donc financières et de matériel. Mais en plus de ça, il y a un autre problème qui est que l'océan Arctique, il est recouvert de banquises. Et donc cette banquise-là, elle va jouer le rôle un petit peu de cache, comme un capuchon au-dessus de l'océan. Et ce qu'on peut faire dans le reste des océans, c'est utiliser des données satellitaires. Donc on a des satellites qui sont en altitude, qui observent l'océan, qui peuvent nous donner des informations sur ce qui se passe en surface, les courants marins, la température de surface, etc. En Arctique, comme on a la glace qui est en surface et qui bloque tout ça, les satellites ne peuvent pas voir ce qui se passe dans l'océan. Et donc, on a beaucoup plus de mal à avoir des observations de grande échelle.
C'est bouché.
Et la seule solution, c'est d'avoir des observations de terrain avec des bateaux ou avec des systèmes autonomes qui dérivent tout seuls avec la glace.
Est-ce que vous étiez beaucoup de femmes parmi tous ces chercheurs ?
Alors, c'est une très bonne question et j'ai une réponse un peu paradoxale là-dessus. Alors, dans les scientifiques qui étaient chefs d'équipe sur place et qui étaient là-bas pour déployer des instruments, il y avait assez peu de femmes. J'en ai compté peut-être 5 ou 6 sur une équipe de 50 personnes. Par contre, dans le groupe de jeunes scientifiques dont je faisais partie, On était, donc nous étions 20 jeunes scientifiques à être impliqués là-dedans. Et sur ce groupe de 20, on était 12 quand même. Donc, sachant que la sélection avait été faite un petit peu à l'aveugle, notre genre n'avait pas déterminé notre présence sur place. C'est quand même une.
Donc, dans
une
les années moyenne. À venir, vous pourriez être un peu plus nombreuses.
J'ai très bon espoir et je pense que ça va largement se normaliser.
Est-ce que vous, à titre personnel, cela a apporté quelque chose à votre conscience écologique, cette expédition de 6 semaines? Puisque le bateau continue, le brise-glace continue à dériver, mais sans vous, vous y êtes resté 6 semaines.
Alors, ma conscience écologique, elle était déjà bien présente, sinon j'imagine. J'aurais probablement pas fait ce métier. Mais c'est vrai qu'au quotidien, pour plein de raisons, depuis que je suis revenue de cette expédition, j'ai très fortement réduit ma consommation de viande.
Donc, ah oui ?
Ouais, oui.
C'est... Alors que c'est surprenant, ça n'a rien à voir.
Ça n'a pas tout à fait rien à voir. Non. Donc il y a forcément
tout est lié. C'est la terre au carré.
Assez personnelle, mais il faut quand même savoir que la production de viande a un impact carbone qui n'est pas négligeable du tout.
Non, mais c'est parce que je mélangeais dans ma tête la glace et la viande. si vous êtes prof, en tout cas, et que vous nous écoutez, sachez que vous pouvez suivre le périple de l'expérience Mosaïque en classe. Le site de Mosaïque, mosaïque-expédition.org. Merci pour cette première semaine en votre compagnie. Je vous retrouve la semaine prochaine, 13h30, 14h30, pour La Terre au Carré, préparée par Denis Delbecq à la rédaction en chef, Chantal Le Montagnier, Sophie Vaux et Clara Marlio pour la préparation des dossiers, Anna Massardier pour les réseaux sociaux, Thierry Dupin pour la programmation musicale. Tout ça est à réécouter sur franceinter.fr.